sais plus si j'ai oublié un truc. Non, ça va. Bonjour, Fergan Aziari.
Bonjour.
Bienvenue, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous publiez « Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée » aux éditions Les Presses de la Cité. Gilles Bercette, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'économie à Neoma Business School. Et vous avez publié « Travailleurs, mais pauvres, inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse » aux éditions De Beuk. Hein, c'est belge. C'est pour ça qu'il faut le dire maintenant. Emmanuel Lechypre.
Bonjour.
De Beuk. Bienvenue, Emmanuel Lechypre.
Bonjour à tous.
Je sais pas si je vous présente, éditorialiste à BFM Business et RMC, et quelquefois aussi sur BFM TV le matin. Ils avaient une super idée ce matin sur BFM TV. Ils se demandaient si l'argent du CAC 40, c'est pas ce qui allait combler les trous des finances publiques. C'est ça, c'est génial.
Oui, oui.
J'ai adoré ça. J'ai adoré.
Vous savez, il y a une séquence dans la matinale, enfin dans le 9-12 ouais. Sur BFM TV qui s'appelle le duel.
Ah ben évidemment, c'est.
Voilà, et on me proposait un duel, mais qui a été annulé finalement. Mais qui était CAC 40 au plus haut, profit. CAC 40 au plus haut, finances publiques au plus bas. Où faut-il trouver l'argent?
Bon, je ne sais pas comment je commencerais l'explication si je devais me lancer. Je vous avouerai que... vous êtes en plein dans l'actualité avec votre livre, Gilles Bercette.
Absolument.
C'est vraiment la France de l'angle mort qui a été qualifiée comme ça par Emmanuel Macron. C'est le dada de Gabriel Attal depuis qu'il est arrivé. Le travail doit mieux payer, mieux payer, mieux payer. C'était un peu... c'était quoi le mot qu'il avait utilisé là? Desmicardisé.
Absolument.
J'ai quand même fait le sujet pendant, je crois, 10 jours tous les jours... J'ai pas la solution, quoi. La désmicardisation, là, CSG social, TVA social, prime d'activité, comment on fait pour les effets de seuil J'y arrive pas, je vous le cache pas.
Mais il n'y a pas une solution. Il n'y a pas un bouton sur lequel il faut appuyer et qui répondrait à ce problème réel. Alors, smicardisation de l'économie, qu'est-ce qu'on entend par là?
C'est les gens qui sont entre 2005 et 2004
et, voilà,
ils ont le sentiment qu'ils payent pour les autres et qu'ils ne reçoivent rien.
Voilà, et puis beaucoup de gens, avec la forte revalorisation du SMIC qu'on a observée hein, depuis le 1er janvier 2021, 8 augmentations du SMIC pour un total de près de 15%.
Oui, oui.
14,8%.
Mais ça, on ne va pas le changer, ça, Gilbert. On ne va pas désindexer le SMIC.
Évidemment, évidemment. Alors,
on va... C'est qui avait proposé la désindexation du SMIC ou le différemment, là?
C'est moi.
C'est lui.
Le rapport du groupe d'experts que j'ai présidé jusqu'au mois de...
C'est lui, c'est le même guichet.
Jusqu'au mois de janvier dernier. Parce que le problème, ce n'est pas le SMIC et son montant. Le problème, c'est que des gens restent au SMIC. Ils restent durablement. Que quelqu'un qui rentre sur le marché du travail rentre au SMIC, éventuellement d'ailleurs un SMIC plus bas, est-ce que c'est problématique? Oui, s'il y reste... Très durablement. Et le problème, c'est que nos dispositifs sociaux, effectivement, scotchent les gens au niveau du SMIC. Pour donner un chiffre, encore une fois, qui est particulièrement frappant, pour un salarié célibataire à temps plein au SMIC, s'il est éligible aux APL, eh bien, ce que l'on voit, c'est que pour augmenter son revenu net disponible de 100 € par mois, il en coûte 483 € à l'entreprise.
Oui, mais j'ai vu ça.
Il y a une disproportion absolument considérable.
Mais la solution ne me crève pas les yeux.
Donc, quand l'entreprise veut donner un petit peu une carrière salariale, un salarié, le gain en revenu net est très faible. Pourquoi? Parce que se superpose la dégressivité des exonérations de cotisations sociales, la dégressivité des APL, de la prime d'activité et la progressivité de l'impôt. Tout ça s'ajoute pour aboutir à cette disproportion absolument considérable entre augmentation du coût et gain en revenu.
Oui, mais le diagnostic est impeccable. C'est les solutions, moi, qui m'intéressent.
Alors,
on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais je ne sais pas.
Oui. Mais en tout cas, il n'y a pas une solution simple.
Oui.
Il y a évidemment une remise à plat des exonérations de cotisations sociales. Il faut peut-être réfléchir à l'articulation entre le CICE, le pacte de responsabilité, la dégressivité des exonérations de cotisations. C'est complexe. Une mission, d'ailleurs, qui a été confiée à deux économistes sur cette question. Et puis, du côté des soutiens aux bas revenus, il faut tout remettre à plat pour réduire la dégressivité de l'empilement de ces prestations. Le problème, c'est que tout remettre à plat et rebattre les cartes dans ce cas-là,
il faut des perdants.
Ça fait des gagnants, mais ça fait des perdants.
Il faudra
les perdants ne sont pas des nantis. Donc,
voilà.
C'est quelque chose de politiquement et socialement un petit peu difficile. Mais il faudra le faire.
100 € d'augmentation, 483 € pour l'employeur. Et le salarié, il a 100 € net de plus dans sa poche, mais entre ce qu'il perd en APL, en prime d'activité et ce qu'il doit payer en impôt sur le revenu, il lui reste un peu plus de 50, je crois. Un truc comme ça. Manuel Lechypre. Est-ce que vous comprenez qu'on touche les 8000 points avec deux guerres à nos portes et des incertitudes géopolitiques dans tous les sens, les marchés ne craignent plus rien.
Alors, les marchés ne craignent plus rien. En tout cas, la géopolitique, ils ne la craignent pas. La réalité, c'est que quand vous remontez finalement aussi loin que la bourse existe et que les guerres existent, vous vous apercevez que ça a quand même globalement des impacts très limités. Je rappellerai juste, si vous cumulez la hausse du Dow Jones pendant les deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, vous arrivez à 150 ou 160% de hausse. C'est caricatural. Mais la réalité, c'est que comme on est rentré en plus dans une période qui n'est plus une période de chocs globaux comme ceux qu'on a connus au cours des dernières années, mais qui sont des chocs locaux, ce sont des chocs qui n'ont pas d'impact globalement sur les marchés.
Non, mais c'est vrai, il n'y a même pas eu d'impact sur le baril de pétrole qu'on pouvait malgré tout redouter compte tenu des régions touchées.
Donc ça, c'est une raison qui est évacuée. Après, c'est vrai quand même que quand on met tout bout à bout, c'est-à-dire non seulement la géopolitique, le Covid, etc., sur les dernières années, le parcours est spectaculaire. Et en même temps, quand vous êtes dans une période d'invention, de bouleversement technologique, de révolution, vous avez toujours des tas d'incertitudes, des tas d'espoirs qui génèrent des phénomènes de marché assez exceptionnels, surtout quand vous êtes aussi dans une période de surabondance de liquidité.
Voilà.
Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous mettez bout à bout, parce que c'est même pas le fait. Moi, ce qui me passionne le plus, que je trouve le plus atypique encore, c'est pas tellement que le CAC batte des records dans ce monde assez incertain, c'est que vous avez aussi des phénomènes atypiques qui font que, par exemple, voir les marchés boursiers et l'or atteindre des sommets historiques au même moment,
et c'est pas normalement comme ça que ça se passe. Et le Bitcoin avec.
Et voilà, puisque l'or est normalement un placement refuge, et ce que vous voyez, c'est que finalement, vous avez alors cette période surabondance de liquidité plus tout un tas d'incertitudes. C'est quoi les paris gagnants? C'est un moment comme on en connaît parfois qui est du on achète tout. Et ça, c'est buy everything, c'est-à-dire en gros, comme on ne sait pas ce qui va marcher, on achète tout et on est un peu dans ce moment-là. Et puis après, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a des raisons spécifiques pour lesquelles l'or monte et des raisons spécifiques pour lesquelles les crypto-monnaies montent sur des bourses qui, à part les valeurs liées à l'intelligence artificielle, où là, il y a un vrai emballement, il y a beaucoup d'autres secteurs pour lesquels les valorisations ne sont pas délirantes.
Alors, ce qui fait monter l'or, a priori, c'est la même raison que pour les marchés actions, c'est la perspective d'une baisse des taux. Regardez ça comment...
Et puis, forte demande d'or aussi des banques centrales.
Oui, alors, forte demande des banques centrales, et on se dit que ça y est, la baisse des taux, c'est maintenant. Et pour vous, c'est quoi comment elle doit s'écrire l'histoire de la baisse des taux? Parce qu'en fait, printemps, peut-être le mois de juin, il y a cette spéculation qui est là, une espèce de course à la bonne date, celui qui réussira à déterminer quand est-ce que la Banque Centrale Européenne considère que l'inflation sous-jacente s'est réglée, que la menace de hausse de salaire s'est réglée, que la bataille contre l'inflation s'est réglée, que la cible de 2% est retrouvée et qu'on peut baisser les taux. La BCE nous dit, moi j'attends d'avoir des données.
Absolument.
J'arrête de faire de la perspective sur le long terme, un peu au doigt mouillé, j'attends des chiffres. Les chiffres des salaires, ce sera mai. Les chiffres des comptes nationaux premier trimestre 2024 de la zone euro, ce sera juin.
Voilà. Tout à fait. C'est une démarche prudente, d'ailleurs, qui est assez identique à la démarche de la Fed. La similitude de discours entre la Fed et la BCE est d'ailleurs très, très, très forte dans ce domaine-là. La politique monétaire sera data-dependent. Ça va dépendre des données. Les données, pour l'instant, sont bonnes. Il faut le confirmer encore par des données de salaire qui montreraient que l'inflation salariale ne s'emballe pas. Pour l'instant, on voit quand même que l'inflation dans les services pour lesquels le coût salarial est le principal facteur de prix, de coût de production, l'inflation dans les services ne baisse pas considérablement.
On est proche des 4 encore, voilà, dans les services en zone euro.
Ce qui évidemment nous amène peut amener à penser qu'il peut y avoir un risque salarial. On ne peut pas l'exclure complètement. Alors, voilà. Pas d'emballement, mais en tout cas de petite accélération. Et les dans ce contexte, tout à fait logique que les banques centrales aient une certaine prudence.
Il faut pas se louper
quand on calendrier voilà de la baisse.
Le moment où on décide de baisser, il ne faut pas remonter.
Le pire pour une banque centrale en termes de crédibilité, ça serait de baisser pour devoir augmenter ensuite un tout petit peu après. Donc il faut la certitude pour les banques centrales d'un processus désinflationniste bien engagé pour se mettre à baisser les taux. Mais le discours, en tout cas, est clair. Elles sont prêtes à baisser les taux si les données confirment qu'effectivement, l'inflation salariale n'est pas au rendez-vous.
On parlait du Bitcoin, Fergan Aziari, c'est la revanche des cryptos, là. C'est le Fergan Day,
Fergan Day, je ne sais pas, mais c'est vrai que la performance du Bitcoin contraste avec tous les discours pessimistes que l'on entend depuis finalement la création de cet actif. Il y a encore quelques semaines...
2009, à peu près.
Il y a encore quelques semaines, la Banque Centrale Européenne se fondait d'une publication complètement incendiaire contre cet actif qui ne vaut rien et qui, dit-elle, n'est pas une monnaie. Bon, je crois que... quelles que soient d'ailleurs nos prises de position sur le Bitcoin, parce que moi je peux tout à fait entendre que les économistes keynésiens qui tiennent à l'existence d'un monopole monétaire, d'une banque centrale avec tous les pouvoirs sur l'économie, soient sceptiques à l'égard d'un instrument qui a été précisément inventé pour affaiblir le pouvoir des banques centrales. C'est ça finalement le Bitcoin, puisque...
Oui, enfin, ça c'est le message, mais... le côté libertarien de la crypto-monnaie, tous les gens que je connais aujourd'hui, qui sont tous jeunes et qui parient sur les crypto-monnaies, ils parient pas en se disant je vais acheter une monnaie.
Je ne parle pas de crypto-monnaie au pluriel. Attention, parce que toutes les crypto-monnaies ne se valent pas.
Oui, on est d'accord.
Il est important de le rappeler. Ce qui fait la spécificité du Bitcoin, il faut rappeler en quelques secondes, c'est le caractère limité des émissions.
21 millions d'unités,
c'est gravé dans le marbre, donc il y a la garantie effectivement que celui qui détient du Bitcoin ne sera pas surpris par une poussée inflationniste, parce que vous avez donc une émission monétaire qui est parfaitement lisible. C'est le caractère décentralisé, c'est le caractère aussi incensurable du protocole et des échanges. C'est-à-dire que finalement, le Bitcoin, c'est une volonté de restaurer une espèce d'étalon or numérique.
Je comprends l'idée.
Qui soit effectivement affranchi de la tentation de la planche à billets. Dès lors que l'on comprend ça, on comprend que cet actif, il est parti pour rester, il est parti pour durer. Alors, est-ce à dire qu'il va s'imposer comme moyen d'échange courant? Ça, je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, c'est un actif qui tend à s'institutionnaliser de plus en plus, c'est-à-dire à être considéré finalement comme un moyen de placement. Alors, certes risqué, encore très volatile parce que la communauté est très petite, et donc le fait que le marché soit très petit fait qu'au moindre mouvement d'achat ou de vente massive, vous avez des variations de prix qui sont assez fortes. Mais à mesure que la communauté s'étend, nous allons nécessairement vers une espèce de stabilisation de l'actif, et je pense que c'est la direction que nous prenons. Ceci dit, vous savez, pour les banques centrales qui craignent vraiment la domination du Bitcoin, il y a un moyen très simple finalement d'anéantir la valeur ajoutée de cet actif, c'est d'administrer une monnaie saine, puisque je le dis, le Bitcoin c'est une réponse à la politique des banques centrales.
C'est quoi une monnaie saine, administrer une monnaie saine? S-A-I-N-E, hein, c'est ça hein.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire ne pas faire de l'inflation, ne pas manipuler la monnaie de manière outrancière, ne pas faire de planche à billets, ne pas dévaloriser la monnaie comme c'est le cas dans les pays occidentaux depuis la fin de l'étalon or. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire du XXe siècle, depuis la fin de l'étalon or, nous avons effectivement une inflation qui fait que nous avons des monnaies qui perdent petit à petit de la valeur, et c'est contre ça
j'entends la
philosophie du Bitcoin.
J'entends la philosophie. Est-ce qu'on est en train de faire mentir les Cassandres?
Mais moi, ce qui me frappe, c'est à travers les deux discours, de celui de Gilbert et celui de Fergan, c'est quand même le conservatisme, voire la ringardise des banques centrales. C'est-à-dire que quand je vous entends Nicolas et Gilbert nous dire qu'elles attendent tranquillement à leur bureau que tombent les statistiques pour savoir où on en est sur les salaires, sur l'inflation, etc. Moi, j'ai grandi à une époque où le rôle des banques centrales, c'était justement d'anticiper les tendances et de prendre des décisions de politique monétaire dont elles savaient qu'elles avaient un impact à 9, 12, 18 mois, et qu'on est là, on attend de voir où on en est vraiment pour prendre des décisions qui vont avoir un impact plus tard. Alors que l'impact de la hausse, il est à peine encore perceptible. Donc moi, j'avoue que je suis assez inquiet de ça. Il n'y a aucune incertitude sur les perspectives d'inflation à un ou deux pouillèmes de points près. Donc voilà. Et moi, je pense que c'est une erreur de dire avril ou juin, c'est pas grave. Je pense que le premier signal de la baisse des taux, il est très important. On ne peut pas déconnecter nos décisions de politique budgétaire du niveau de la politique monétaire, et attention à pas rentrer dans un policy mix qui soit beaucoup trop restrictif parce que la baisse des taux aura été trop tardive et que le resserrement budgétaire interviendra à un moment où la conjoncture est un peu flagellante. Donc moi, j'avoue que je suis très inquiet, et je suis aussi inquiet du conservatisme intellectuel notamment sur les sujets des crypto-monnaies. C'est comme si vous voulez, et c'est une conversation qu'on a souvent avec Jean-Marc Daniel, le statut de monnaie, ça se décrète au départ. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes une monnaie si vous remplissez les fameux critères traditionnels d'être un instrument d'échange, d'être un instrument une réserve de valeur. Mais bon sang de bonsoir, ce statut, il n'est pas acquis dès le départ. Ce statut, il se conquiert.
C'est un processus, tout à fait.
Ce statut, oui, il se gagne. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la tendance fondamentale du monde entier, de l'économie et de toute notre vie, c'est quand même une informatisation qui est inarrêtable. Nous sommes dans une informatisation générale du monde. Et au nom de quoi la monnaie échapperait à cette informatisation ?
Le fait que la monnaie soit informatisée, pas informatisée,
non, mais c'est bien la question de la monnaie. Parce que ça pose aussi la question des intermédiaires, etc., comme l'a dit Fergan. Donc l'informatisation de la monnaie, moi, c'est un process qui me paraît assez inéluctable.
Ça s'appelle l'euro numérique.
Honnêtement,
là, c'est pas la même chose.
Moi, honnêtement, si quelqu'un est capable de m'expliquer l'intérêt des euros numériques ou des dollars numériques, je suis preneur. J'ai toujours pas très bien compris.
J'ai jamais
trouvé quelqu'un qui m'expliquait la valeur ajoutée de ça.
Et donc, moi, j'ai des réponses.
Et donc, pour terminer, voilà. C'est-à-dire, on voit bien que les cryptos et le bitcoin, ça gagne de plus en plus de gens. Donc, ça va devenir une monnaie d'échange. Donc, ça va devenir une monnaie de réserve. Après des soubresauts, après des tumultes, après qu'il y ait des réglementations.
Après des échecs, des erreurs.
Mais ça paraît quand même assez inéluctable.
On marque une pause. Gilbert réagira dans un instant. Après, on fera la semaine à 20 milliards, après la semaine de 10 milliards. Avec un euro numérique, à la limite, tu peux te passer des banques commerciales. Avec un euro numérique, tu peux faire de l'hélicoptère monnaie en 5 minutes si tu as envie de faire de l'hélicoptère monnaie. Avec un euro numérique, tu peux imposer à un mec à consommer. Tu lui dis ton euro numérique, il crève en fin décembre. Tu le consommes avant fin décembre, sinon.
C'est génial comme perspective.
C'est génial, ça.
D'une
monnaie saine.
Avec un euro numérique, tu peux envisager la fin du cash sans l'avouer tout de suite. Bon. On marque une pause. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.